J'écris de chez les moches. Pour les moches. Les vieilles, les camionneuses, les frigides, les mal baisées, les imbaisables, les hystériques, les tarés. Toutes les exclues du grand marché à la bonne meuf. Je m'en tape de mettre la gaule à des hommes qui ne me font pas rêver. Il m'est jamais paru flagrant que les filles séduisantes s'éclataient tant que ça. Je me suis toujours sentie moche. Et je m'en accommode d'autant mieux que ça m'aurait sauvé d'une vie de merde à me coltiner des mecs gentils qui m'auraient jamais emmené plus loin que la ligne bleue des Vosges. Je suis contente de moi. Comme ça. Plus désirante que désirable. J'écris donc d'ici, de chez les invendus.
Extrait de King Kong, théorie, le best-seller de Virginie Despentes, lu par Fishback, la musicienne, en introduction donc de cette émission. Dans l'actualité des idées aujourd'hui, comment l'amour est-il devenu un marché ou pourquoi l'a-t-il toujours été? On en parle avec notre invité, le philosophe et essayiste belge François de Smet. Après Lost Ego, la tragédie du je suis, aux presses universitaires de France, il publie aujourd'hui Eros Capital, les lois du marché amoureux chez Climat. Si l'amour est un idéal, il serait aussi devenu l'une des clés de voûte du capitalisme, selon l'auteur. Reproduction, domination, inégalité, comment serait-il le seul aujourd'hui à pouvoir échapper aux lois du marché? L'auteur appelle à distinguer ce qui relève de notre nature propre aussi pour trouver dans notre culture les clés d'un vivre ensemble. Voilà un essai qui fera sûrement débat. Dès aujourd'hui, discussion et dès demain d'ailleurs dans l'émission Avis critique de Raphaël Bourgois. Bonjour à vous François de Smet.
Bonjour.
Eros et capital, deux mots qui vont si mal ensemble. L'amour n'est pas aussi pur qu'il n'y paraît.
C'est vrai qu'ils vont mal ensemble, mais ces distinctions entre deux sphères qu'on tient absolument à laisser aussi distinguer, on se rend compte quand on cherche un petit peu que c'est très centré, c'est très occidental et c'est très récent. C'est très récent parce que même ici en Occident, jusqu'à il y a environ 200 ans, il n'y avait pas une séparation aussi forte. Nous avons, depuis la Révolution victorienne, amalgamé ensemble le mariage, l'amour, la sexualité. C'était pas si évident que ça avant. Avant, il était beaucoup plus commun que des unions associent des patrimoines, ce qui ne nous empêchait pas d'avoir des sentiments. L'amour existait, mais il se vivait en général, et même souvent en dehors du couple.
Il pouvait et même arriver après, il n'était pas forcément à l'origine.
Et parfois l'amour naît dans un mariage qui n'était pas amoureux au départ. Et dans l'espace, quand vous regardez un petit peu ce qui se passe dans les cultures autour de nous, en Afrique, en Asie, quelque chose dont on se rend compte par la mondialisation, la circulation des êtres humains, vous vous rendez compte que cette distinction, cette séparation que nous, occidentaux, tenons absolument à maintenir entre la sphère des intérêts et la sphère des sentiments, entre la sphère de l'argent et la sphère du sexe, enfin entre ces deux sphères de manière générale, n'existe pas de manière aussi nette en Afrique, dans un certain nombre de cultures, en Asie, un petit peu partout, partout dans le monde, le fait d'entremêler sentiments, intérêts, argent est quelque chose de beaucoup plus commun. Mais nous tenons à faire la distinction, et de fait, tous les sujets qui mêlent les deux, comme la prostitution, comme les sugar babies, sentent le souffre, inévitablement.
Chez nous, l'amour que l'on croit libre et égalitaire ne l'est peut-être pas tant que ça à vos yeux. Quand le marché a-t-il mis la main sur ce qu'il y a de plus intime en nous? Pour vous, François de Smet.
Alors, le propos de mon livre, malheureusement, est d'inverser la question et de considérer que il y a toujours eu échange. Que c'est nous qui sommes devenus romantiques, ce qui est d'ailleurs très bien, d'une certaine manière, que c'est nous qui avons inventé sur base d'un sentiment qui existe. Je ne dis pas que l'amour est une illusion, elle a des racines, elle a des racines biologiques, chimiques, c'est une réalité, mais nous l'avons hypostasié, nous en avons fait une sorte d'objet refuge dans lequel nous investissons. Ma thèse est que même si ça peut paraître déprimant, l'échange, le fait de se mesurer, le fait d'être des homo compatibilis, comme je l'ai proposé, est inhérent, et Nietzsche disait déjà, à la nature humaine. Les êtres humains se comptent, calculent, l'expression « je ne l'ai pas calculé » est assez récente, mais elle traduit bien cette idée. Et c'est pour ça que le libéralisme marche bien, et qu'on dirait qu'aucune révolution ne peut vraiment l'atteindre, parce qu'il est tellement liquide qu'il s'adapte à tout, parce qu'il est conforme à notre besoin de nous mesurer les uns les autres, de mesurer à peu près tout ce qui nous entoure comme gains, bénéfices, pertes. Et l'idée que ça puisse aussi affecter la sphère sentimentale et amoureuse et sexuelle est quelque chose d'insupportable, et donc nous l'isolons. Nous en faisons un domaine qui serait, mais à mon avis de manière grandement fantasmée, qui serait gratuite, qui échapperait à toute forme de calcul. Et nous avons besoin que, comme une pierre de touche, ou plutôt une clé de voûte, l'amour, un refuge, existe comme chambre de compensation, comme clé de voûte du monde libéral et capitaliste dans lequel on est. C'est comme ça qu'il tient, c'est parce que quelque chose lui échappe.
Or, rien n'est réellement jamais gratuit. Il y a toujours un échange, voire un échange de bons procédés.
Oui, d'ailleurs, les couples qui ne tiennent pas sont sans doute ceux où l'échange ne fonctionne pas. Notre vocabulaire le trahit bien. On parle de s'investir dans un couple. On parle parfois de rendre sa liberté à quelqu'un. Dans tout couple, il y a une forme d'économie. Alors, ça peut être très équilibré. Ça ne passe pas nécessairement par une équivalence purement arithmétique des tâches ménagères. Ça peut être plus subtil que ça. J'apporte ceci et je prends quelque chose de différent. Mais en tout cas, il faut que quelque chose circule. Sinon, je crois que ça se casse la figure. Et c'est ça qui est intéressant. Il y a toujours un échange. Alors, il y a des tas de sociologues qui ont étudié ça. L'économie du couple, elle est en général implicite. Généralement, il y en a quand même un qui gagne davantage d'argent que l'autre. Dans ce cas-là, celui qui gagne de l'argent, sans que ce soit jamais dit, en général, prend un peu plus sa part, non pas dans les dépenses ménagères, mais dans des choses un peu plus extraordinaires, un peu plus de vacances, un peu plus de restaurants. Et il y a un phénomène aussi intéressant, c'est que quand c'est madame qui gagne plus, qui arrive, c'est pas le plus courant, mais cela arrive, il y a des mécanismes d'implicite qui servent à préserver l'ego masculin. C'est-à-dire que la femme, en général, ne met très rarement en avant qu'elle gagne davantage, elle ne fait pas de cadeaux onéreux, elle investit davantage cet argent dans l'économie du couple. Il y a des tas de choses fascinantes, parce que c'est du non dit, c'est de l'implicite, mais échange il y a, et bien sûr il n'est pas seulement monétaire ou matériel, ça passe aussi
non,
par...
Non, il y a aussi une économie du don.
Bien sûr,
et vous le racontez.
Des sentiments, des gestes affectifs, des relations sexuelles, tout ce qui peut s'échanger.
Quelle est, comment décririez-vous notre vision du monde moderne, notre vision, pardon, moderne du couple qui va avec celle du monde moderne? Peut-être pour vous aider ou amorcer cette définition, je vous propose d'écouter cet extrait d'un clip d'un site de rencontre. Vous nous direz si vous y voyez toutes les composantes du couple moderne aujourd'hui.
J'ai une vision bien précise de ce que je recherche en amour. Il n'a pas besoin d'être parfait. Juste parfait pour moi.
Pour moi, la base d'une relation épanouie, c'est de partager des passions et des valeurs communes.
Pourquoi lier de rencontre? Car en amour, on a tous les droits à l'être exigeant.
Et lier de rencontre? En amour aussi, soyez ambitieux.
Voilà, c'est beau. Je pense que vous n'arriverez pas, François de Smet, à gâcher mon vendredi. Est-ce que
je suis pas là pour ça.
Est-ce que cet extrait illustre d'une certaine manière ce que vous voulez dire, notre vision moderne du couple aujourd'hui, de ce qu'on en attend surtout?
Alors, les sites de rencontres et Internet a tout bousculé là aussi. Au début, on avait des sites de rencontres qui nous faisait croire que Internet était peut-être comme un gigantesque parc public où nous serions tous à égalité dans nos choix de rencontres. Et de fait, il y avait des sites relativement classiques, mythiques, etc. Et en effet, et ça c'est un site relativement élitiste, celui dont vient entendre la pub, sont apparus des sites spécialisés. Il y a moyen de rencontrer des gens de sa classe sociale, mais aussi de son ethnie, de sa religion, de son origine sociale et culturelle. Et je réponds à votre question, rassurez-vous, je commence un de mes chapitres sur un site particulier qui s'appelle richmeetbeautiful.com et qui est un site qui veut explicitement faire se rencontrer des sugar babies et des sugar...
Qu'est-ce que c'est des sugar babies ?
Les sugar babies sont des jeunes femmes qui explicitement, enfin, sont généralement assez jeunes et assez jolies et recherchent explicitement des hommes plus âgés et pourvus. Et ce site-là a le culot et peut-être le sens du commerce aussi, d'afficher cette revendication comme telle. Avec l'idée, bah, écoutez, si en France ou en Europe, il y a moyen d'avoir des sites pour des gens entre classes supérieures, entre catholiques, entre musulmans, pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas avoir un site qui met une offre et une demande qui existe par ailleurs
sur le critère de l'âge. Ensemble.
Et ça montre quelque chose d'intéressant. Il n'y a rien de plus discriminant en réalité que nos choix amoureux et sexuels. Et c'est ça, c'est un vrai paradoxe moderne. D'une part, nous sommes tous libres d'aimer. Le mariage pour tous, ça avait ce slogan et fort heureusement en bandoulière et le portait très fort. Nous sommes tous libres d'aimer, mais c'est pas aussi simple que ça. Nous ne pouvons pas nous faire aimer absolument par qui nous voulons tout le temps. Et quand nous faisons des choix, ils peuvent être très préférentiels, très injustes, rarement méritocratiques, très discriminatoires. Si on appliquait au choix amoureux les critères de pénalisation et d'interdiction que nous appliquons dans le reste de la vie, par exemple, vous ne pouvez pas discriminer pour un emploi, pour louer un logement, pour laisser des gens passer en boîte de nuit, nous aurions un vrai problème. Nous pouvons être discriminants en amour et quelque part, c'est même valoriser sous le vocable liberté d'aimer. Et ça donne un marché qui crée ces exclus, qui parfois sont visibles parce qu'ils font du bruit, surtout quand ce sont des hommes, mais qui génèrent aussi un grand nombre de frustrations invisibles. Il y a des tas d'exclus du marché et je trouve que c'est un vrai sujet qui ne dit pas son nom et ça peut même devenir un sujet politique.
C'est ce qu'on entendait dans l'extrait de King Kong Theory de Virginie Despentes aussi sur ce profil inégalitaire, libre et égalitaire, voilà tel que nous nous pensons en amour, en tout cas François de Smet. Et vous nous dites qu'en fait l'amour est face à un nouveau paradoxe, ou peut-être pas si nouveau que ça, c'est qu'il n'y a pas ou peu d'égalité réelle, pas ou peu de liberté réelle dans ce qu'on pense être la liberté d'aimer. Et c'est ce que vous tentez de comprendre, c'est-à-dire que c'est pas tant de savoir si le marché a récupéré cette situation-là, ou est-ce que cette situation était déjà là à l'origine et que le marché n'a fait que s'y adapter.
Alors, je me suis posé la question, d'ailleurs c'est pour ça que je fais des livres, je n'essaye pas d'asséner un point de vue ou de convaincre les gens qu'il faut se comporter de telle manière, j'essaie de comprendre un phénomène. Et en m'interrogeant sur l'idée de ce marché qui ne dit pas son nom et qui ne peut subsister que s'il ne dit pas son nom, que c'est un marché qui ne doit pas apparaître comme marché, et c'est toute la subtilité du marché et des lois du marché amoureux, on se rend compte, on tombe assez vite sur le concept d'échange économico-sexuel proposé par des sociologues féministes et singulièrement l'italienne Paola Tabet. Et c'est la réponse à votre question dans l'idée que l'échange a peut-être toujours existé. L'idée de Paola Tabet est que, pour le faire court et peut-être un peu durement, de la passe de la prostituée la plus courte au mariage bourgeois le plus établi, peut-être n'y aurait-il qu'une différence d'amplitude et pas de nature. Il y aurait peut-être toujours eu un échange entre l'accès au sexe des femmes et les moyens financiers des hommes. Quand vous regardez ce qui se passe dans une grande série de cultures du monde et dans notre histoire, vous vous rendez compte que un rapport d'exploitation consentie a en effet existé très souvent. Et que la psychologie évolutionniste, qui est une discipline en plein essor et qui a parfois du mal à faire entendre ses vues parce qu'elle bouscule une série de vues, atteste cela aussi. Il y a effectivement des raisons de penser que nos ancêtres mâles, hommes, ont été en général des individus qui ont été valorisés par des traits de dominance, de force, mais aussi et surtout de statut social. Qu'ils ont monopolisé un certain marché. Nous avons beaucoup plus d'ancêtres femmes que d'ancêtres hommes pour cette raison-là, parce que beaucoup d'hommes, à chaque génération, ne se reproduisent pas ou ne font pas passer leurs gènes. Et que les femmes, quant à elles, sont plus sélectives, se font désirer et finissent par choisir des hommes les moins inconstants possibles, les plus fidèles possibles et les plus rassurants d'une certaine manière.
Ça, c'est prouvé scientifiquement que les femmes sont plus sélectives?
Ah oui, c'est prouvé. Vous pouvez trouver de tas de manières. Mais ça, même dans les mœurs, vous le voyez, on attend des femmes. Alors, bien sûr, il ne faut pas généraliser. Vous pourrez toujours me trouver des exemples individuels d'une femme ou d'un homme qui ne répond pas à ce cas. Bien sûr, on parle de moyennes, on parle de phénomènes longs, mais j'en cite beaucoup et j'essaie vraiment de référencer ce que je raconte de manière la plus scientifiquement fondée possible. Il y a des constantes que vous trouvez dans beaucoup de pays du monde. Dans tous les pays du monde, il y a une différence de 3 ans entre les hommes et les femmes qui sont en couple, en moyenne. Dans tous les pays du monde, vous interrogez des femmes qui cherchent plutôt des hommes avec certains traits physiques. Alors, elles sont moins exigeantes que les hommes en général, mais en général, elles préfèrent les hommes grands et elles préfèrent les hommes un peu plus âgés et elles préfèrent les hommes un peu mieux pourvus ou qui promettent quelque chose en termes de stature et de positionnement social. Et si vous remontez à des temps immémoriaux, ça peut se comprendre que la sélection naturelle et sexuelle ait favorisé une combinaison entre des femmes qui ont besoin d'hommes qui les protègent et qui protègent leur éventuelle progéniture et des hommes qui sont un peu plus conditionnés à exploiter toutes les occasions qu'ils ont. Qui sont un peu plus conditionnés à exploiter les occasions qu'ils ont, à sexualiser leur vision du monde beaucoup plus facilement et à se reproduire dès qu'ils en ont l'occasion. Et tout ça se cogne à nos normes, par ailleurs essentielles, mais construites, de liberté, d'égalité, de consentement. Et je crois que c'est ce hiatus entre une partie de notre nature et une partie de notre culture qui fait tellement débat, par exemple, autour de ce livre, mais qui fait tellement débat sur nos combats contemporains. Comment penser les relations entre hommes et femmes? Comment comprendre et combattre le harcèlement? Comment construire des sociétés de plus en plus égalitaires? Et là, c'est l'un des sujets du livre. Comment trouver la bonne place à attribuer à notre nature et notre culture? Je me suis rendu compte, et je n'avais pas de religion là-dessus, en commençant mes travaux, Il y a un grand hiatus, il y a une grande dichotomie entre, disons, un courant essentialiste et un courant existentialiste. L'essentialisme, ça a animé nos conceptions depuis la nuit des temps. C'est très stéréotypé. Il y a des hommes par nature, des femmes par nature. On a des comportements complètement prédéfinis. Voilà, ça va de pair avec une certaine idée de la nature, de Dieu, etc. L'existentialisme, plutôt 20e siècle, et c'est le pli complètement inverse. Et on est toujours dans cette culture-là, consistant à dire non, on ne naît pas homme, on le devient, on ne naît pas femme. On le devient, dirait Sartre et Simone de Beauvoir. C'est les années 80 et le self-made man. Je peux tout choisir, je peux changer de nom, je peux changer de religion, de nationalité, même de sexe. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on en revient un peu. C'est qu'on se rend compte, une série de recherches, là pour le coup génétique, nous prouve que nous sommes un peu plus déterminés que nous le croyons, qu'il y a des comportements, pas tous, c'est ça qu'il faut bien saisir pour pas faire de caricature ni dans un sens ni dans un autre, il y a un certain nombre de comportements que vous trouvez bien davantage chez les hommes ou chez les femmes. En gros, les hommes et les femmes ont les mêmes capacités, nous sommes aussi intelligents les uns que les autres, mais dès qu'il s'agit de la relation à l'autre sexe, nous avons des comportements et des manières de voir le monde différentes. Et donc, il faut... faut pas revenir 100% essentialiste, c'est ridicule, mais il est aussi infondé aujourd'hui de dire que tout nous vient de la nature, que de dire que tout nous vient de la culture et que nous serions des pages blanches qui ne devraient rien aux millions d'années d'évolution qui nous ont produits, non seulement dans nos corps, mais aussi en partie dans nos esprits. Et ça, donc, c'est cette dichotomie-là qui fait du mal.
Qu'est-ce qui vient de la nature ? Pour vous remonter, pour se faire aux origines, au couple Homo sapiens aussi, pour comprendre ce qui nous arrive, domination, reproduction, pour voir aussi en quoi cette double grille de lecture historique peut nous éclairer. Sur cette question, et c'est pas si simple, je vous propose d'écouter les mots de la préhistorienne Claudine Cohen, qui a réfléchi, elle aussi, dans tous ses travaux, sur la place des femmes dans la préhistoire.
Dans l'espèce humaine, la sexualité est toujours possible parce qu'il n'y a pas de moment privilégié pour cette sexualité, en tout cas dans les comportements. On peut imaginer que cette perte de l'œstrus, qui est un événement très important dans l'histoire de l'humanité, la perte des signes visibles de l'œstrus, les Américains disent l'ovulation cachée, a remodelé complètement non seulement le corps des femmes, mais aussi les rapports entre les mâles et les femelles dans l'espèce humaine. Jusqu'au point que certains anthropologues font l'hypothèse suivante, et c'est par exemple Maurice Godelier qui a écrit beaucoup là-dessus, le fait que la sexualité étant possible tout le temps, partout, avec tout le monde, elle a en quelque sorte envahi les gens, envahi le monde social, qui n'a plus été vivable. Et de ce fait, il a été nécessaire à un moment de poser des règles. Pour poser un certain nombre de règles du comportement sexuel et probablement des règles de parenté. Et ces règles de parenté, nous disent les ethnologues, sont au fondement de toutes les sociétés humaines.
Voilà, la parenté, la famille comme mode de régulation aussi de la sexualité, des échanges sexuels. Là, on revient à ce débat, cette dualité oui. Nature-culture, en s'inscrivant plutôt dans la deuxième
Oui, c'est très intéressant et ça illustre quelque chose, il est en fait pour l'être humain de plus en plus difficile d'isoler nature et culture. Mmh. Ça devient le jeu de l'œuf et de la poule parce que l'être humain transforme en permanence sa propre nature. Alors, ça va devenir aussi difficile que d'aller rechercher le lait du café dans votre café au lait.
Pourquoi là pour vous, Claudine Cohen revisite l'histoire ?
Non, je trouve ça tout à fait pertinent, mais c'est un ce qu'elle suggère est une réappropriation par la culture par l'homme de sa propre nature. Mais il est possible d'aller voir encore plus loin que chez l'homme préhistorique ou au paléolithique. Il est possible, c'est la thèse sur laquelle je me base, soulevée notamment par Richard Dawkins, que la différence de comportement et la différence de sexualité entre hommes et femmes remonte simplement à la division des sexes. Il y eut un temps où il n'y avait pas de sexe du tout, il n'y avait que des cellules isogames. Et la sélection naturelle a privilégié en reproduction deux types de cellules. D'une part, les porteurs de cellules qui, pour se reproduire, émettent un gamète plutôt gros et peu mobile et très nourricier. Et d'autre part, les porteurs de gamètes petits, très mobiles et rapides. Et l'idée, c'est que ces deux porteurs-là, ancêtres des hommes et des femmes, des mâles et des femelles de toutes les espèces, ont gagné la bataille de l'évolution et que les porteurs de gamètes intermédiaires ont disparu. Et que nécessairement, il y aurait là une forme d'exploitation depuis le début, depuis même l'existence et l'avènement de sexes différents, puisque pour se reproduire, on a besoin que d'une part un œuf assez gros et peu mobile puisse être rejoint par des gamètes plus petits. C'est pas pour ça que ça dessine tout le destin des mâles, des femelles, des hommes et des femmes sur la planète, mais ça donne une indication, puisque ce sont la différence de sexe est carrément, même si elle n'est pas tout à fait universelle, un invariant profond de tout le vivant. Ça explique que vous ayez des comportements différents. En gros, dans la plupart des espèces, une femelle a un œuf rare par mois, qui est une denrée précieuse et qu'en plus elle ne peut émettre qu'une partie de sa vie, alors que les hommes, les mâles, peuvent essaimer, si j'ose dire, à peu près toute leur vie et en quantité. Et nécessairement, ça, Peggy Sastre est la bonne interprète là-dessus, ça génère des comportements différents. La prise de risque est beaucoup plus forte pour une femme à chaque contact. Elle peut risquer une grossesse, elle peut risquer... Et donc, elle a un intérêt à cantonner la sexualité, à ne pas se donner facilement, à faire, à jouer, comme certains évolutionnistes le disent, la sainte nitouche pour faire patienter les hommes, alors que les mâles ont plutôt intérêt à multiplier les occasions. L'intérêt des uns et des autres n'étant pas leur intérêt propre à prendre du plaisir, c'est l'intérêt de leur gène, qui est inconscient et qui veut simplement passer le cap, c'est l'idée du gène égoïste de Richard Dawkins, passer le cap de la génération suivante. Chaque fois que nous croyons faire des choix, ce sont en fait nos gènes qui essayent de se passer à la génération suivante et de survivre comme ils le font en fait depuis des millions d'années à travers des corps, nos corps, qu'ils prennent comme des mules.
Tout ça pour nous expliquer quoi, en fait, François de Smet ? Que nos choix sont de facto, biologiquement, socialement aussi, on va y revenir, orientés. Est-ce que, pour autant, vous y voyez une perte de notre libre arbitre ?
C'est une question pertinente parce que mon précédent livre était sur le libre arbitre. Peut-être que ceci explique cela. Alors, je suis profondément matérialiste, on l'aura compris, mais je ne suis pas du tout cynique. Et je ne suis pas du tout pessimiste. Je pense que... Alors, je suis matérialiste, athée, je pense que l'existence n'a aucun autre sens que celle qu'on lui donne, ou à peu près, et que nous sommes sur un bout de caillou perdu dans l'univers, émergé complètement par hasard, et que donc tout est possible. Alice au Pays des Merveilles, dans Lewis Carroll, à un moment, c'est citation, mais puisque ce monde n'a aucun sens, qu'est-ce qui nous empêche de lui en inventer un ? Je crois qu'on en est là. Nous devons nous défaire et de l'illusion que nous sommes complètement formatés par la nature, c'est faux, et de l'illusion que nous pouvons être complètement libres et que nous ne devons rien du tout à cette nature, ce qui est faux aussi. Spinoza, sur libre-arbitre, avait une formule qu'on peut peut-être appliquer ici. Peut-être que nous ne sommes pas libres autant que nous le pensons. Peut-être que nous sommes prédéterminés par beaucoup de choses, par beaucoup de choses qui nous contraignent, mais que dès le moment où nous avons conscience de l'existence de ces chaînes, alors nous gagnons en liberté. Nous connaissons notre marge de manœuvre. Ce à quoi j'essaie de participer, d'abord, c'est à davantage de ponts à créer entre les sciences sociales et philosophiques d'un côté et les sciences de la vie de l'autre, parce que j'ai un peu l'impression que chacun reste dans son couloir parfois un peu confortablement. Les sociologues et les philosophes se citent entre eux et les sciences de la vie sont un peu dans leur couloir aussi. Et je pense qu'on devrait beaucoup plus se cogner les uns les autres et reprendre un peu langue les uns les autres pour essayer de construire des modèles qui expliquent ce que nous devons faire. Et puis, que faut-il faire de ce qu'on trouve ? Simplement considérer que se connaître mieux, comprendre quels sont les mécanismes qui nous agitent, ça permet peut-être d'aborder d'une manière plus efficace un certain nombre de problèmes, comme le harcèlement, la domination et l'inégalité entre hommes
et
femmes.
Voilà, et pour prendre conscience de ces chaînes, vous déclinez, vous donnez aussi des exemples concrets pour nous appeler à nous interroger sur nos propres représentations. Pourquoi, par exemple, le couple unissant un homme âgé et une femme plus jeune, instinctivement, nous dérange moins que l'inverse. On peut prendre l'exemple de deux couples célèbres. D'un côté, le président américain Donald Trump et sa femme, Mélania. De l'autre côté, le président français et sa femme, les Macron, Emmanuel et Brigitte Macron. Pourquoi est-ce que un sentiment dérange plus que l'autre ? Et vous revenez notamment sur cette couverture de cette une de Charlie Hebdo qui avait fait assez sensation, voire choqué à l'époque. On voyait Emmanuel Macron, la main sur un dessin, la main posée sur le ventre de Brigitte Macron, ventre arrondi, et le texte était...
Il va faire des miracles.
Il va faire des miracles.
Il venait d'entrer en fonction, évidemment.
Particulièrement dérangeante.
Bien sûr.
Pourquoi ?
Et c'est toujours, c'est Charlie Hebdo et ils ont évidemment le droit et le devoir d'être insolents et dérangeants. Et c'est toujours intéressant de se demander, mais là, dans chaque cas, chaque fois qu'il choque, qu'est-ce qui choque et pourquoi ça nous dérange autant ? Je commence le livre, en effet, avec ces deux couples. Ils étaient ensemble en juillet 2017, dans le restaurant de la Tour Eiffel. Ils sont à quatre autour de la table. Et je m'étais dit, mais c'est vrai, si un patient hypothétique émergeait d'un coma profond depuis 2 ans et qu'ils ne connaissent aucun des protagonistes, puisque nous avons eu 2 élections d'outsiders vraiment surprenantes, ils pourraient croire naturellement que c'est Donald et Brigitte sont en couple et que Emmanuel et Mélania sont en couple, puisqu'en plus les âges correspondent et les différences d'âge correspondent quasi exactement entre les deux couples. Et bien non, c'est pas le cas. Le couple Trump est l'archétype du couple Sugar Daddy, Sugar Baby. En fait, Donald Trump agit comme une sorte de prédateur sexuel très fier de trimballer ses trophées, qui n'a eu que des épouses plus jeunes que lui, qui étaient toutes des top modèles et dont il est très heureux de mettre en avant la beauté, très, très heureux d'oser dire que c'est son statut de star qui lui permet d'attraper n'importe quelle femme comme il le voulait, comme il le disait dans un enregistrement pris à son insu, c'est vrai, en 2005, mais qui révèle quand même beaucoup de sa personnalité. Et à côté de ça, vous avez ce couple complètement surprenant, en effet, d'Emmanuel Macron et de sa femme Brigitte. Alors, ça rajoute à la dimension de votre président de la République, qui est un ovni sur tous les plans, et qui, du coup, il y a énormément et de rumeurs et d'interrogations, et sans doute d'insinuations très déplacées qui ont eu lieu pendant la campagne, parce que c'est pas habituel. Et si ça nous choque instinctivement, et si ça a choqué, je me souviens d'une émission japonaise qui a fait toute une émission sur le fait que l'épouse du président était âgée de plus de 20 ans, et que c'était quand même assez extraordinaire et étrange. Et si la une de Charlie Hebdo choc, c'est parce que ce couple se forme contre les attentes reproductives que nous avons instinctivement, entre autres, à tort, bien sûr, culturellement, quand nous regardons un couple. L'échange économico-sexuel dont je parlais tout à l'heure, il est complètement conforme à des hommes plus âgés avec des femmes plus jeunes. Quelque part, il est même logique. Si les femmes recherchent, ont une tendance à rechercher des profils qui les rassurent, des hommes puissants, s'ils sont puissants, c'est qu'ils ont de l'argent ou des moyens ou de la puissance, il est logique qu'ils soient plus âgés, parce qu'ils n'ont plus à faire leurs preuves, et qu'ils ont donc du pouvoir. Et en même temps, la jeunesse, les hommes ne cherchent pas la jeunesse et la beauté en tant que telle, ils cherchent, sans le savoir, bien sûr, la fertilité. Et la fertilité se signe, se marque par la beauté, et la jeunesse, par la jeunesse qui elle-même se signe par la beauté. C'est ça le circuit. Quand vous avez donc un couple qui va complètement, qui renverse la table et qui se propose en marge des attentes reproductives actuelles comme une femme plus âgée avec un homme plus jeune qui n'a pas d'attente reproductive apparemment particulière, ils n'ont pas d'enfants, ça choque le fait que nous avons une attente a priori naturel, mais que nous pouvons travailler culturellement parce que nous en avons tout à fait le droit, que les couples sont supposés être là pour faire des enfants, même si culturellement nous en avons fait bien autre chose. Ça prouve que le sens de l'échange économico-sexuel est profondément ancré.
L'amour, les sentiments, le sexe, qui ne constituerait donc une gigantesque ou un gigantesque et inavoué marché au sein duquel on n'évoluerait pas tous avec les mêmes chances. Je vous propose, sur cette relation entre le capitalisme et l'amour, de réécouter les mots d'une sociologue des sentiments que vous citez d'ailleurs, l'israélienne Eva Illouz.
D'un côté, le capitalisme a libéré, si vous voulez, les contraintes économiques qui pesaient sur les individus et sur le mariage. Donc, c'est le capitalisme qui a été le grand inventeur du mariage d'amour en permettant aux hommes et aux femmes de ne plus dépendre de l'héritage familial et de la tutelle des communautés pour se marier. Mais dans un deuxième mouvement, et là, c'est ce capitalisme un peu plus tardif qui m'intéresse, c'est la récupération donc du sentiment amoureux dans les industries de loisirs et les industries culturelles. Donc, ce qui m'a intéressé, c'est l'introduction de l'utopie amoureuse dans les pratiques de consommation, par exemple du voyage, dans les pratiques de consommation du loisir comme les restaurants, les cinémas, les discothèques, etc. Donc, c'est le capitalisme et le sentiment amoureux.
Voilà, lui aussi, ce marché de l'amour a profité de la libéralisation qui n'a pas touché que les services publics, mais visiblement les mœurs aussi. Est-ce que ce marché de l'amour tel qu'il nous est présenté aujourd'hui est totalement ouvert?
Excellente question. Sur le papier, il l'est. Et le fait notamment que les femmes aient acquis, après haute lutte, d'abord l'accès à l'universalité juridique et les mêmes droits que les hommes, et l'autonomisation financière et économique aurait pu complètement bouleverser l'échange économico-sexuel sur ces bases, puisque les femmes n'ont plus besoin de dépendre d'un homme pour assurer leur subsistance. Et pourtant, le marché continue. On peut observer autour de nous empiriquement que les bases de l'échange économico-sexuel perdurent. C'est-à-dire que continuent à dominer en grande partie le marché. D'une part, les hommes qui continuent alors vous allez me dire que c'est en grande partie culturel, mais c'est les deux malheureusement. Les hommes continuent à investir beaucoup dans leur carrière, dans l'accumulation de richesses, à favoriser des modèles de hiérarchie, à être surreprésentés dans les postes à responsabilité et de pouvoir, que ce soit en politique ou dans le monde des grandes entreprises. Et les femmes continuent même si elles sont de meilleures étudiantes, elles sont elles ont envahi au sens positif du terme à peu près toutes les sphères du monde du travail, mais elles sont en grande majorité elles sont majoritaires dans les temps partiels, elles s'épanouissent beaucoup dans l'économie du care, elles passent plus de temps avec les enfants et elles investissent encore beaucoup dans leur apparence et dans l'entretien de leur jeunesse. C'est comme si on restait prisonnier de ces choses-là. Et dans nos couples, nous avons des histoires généralement de plus en plus brèves. Nous devons échapper à la tentation de consommer les uns les autres parce que là où Eva Illouz, que je cite beaucoup, a vraiment touché quelque chose, notamment en s'intéressant à l'effet d'Internet et des sites de rencontres. Là où le capitalisme rejoint le marché amoureux et lui donne une ampleur inédite, c'est qu'elle nous met, on est tout à coup face à la réalité d'un marché universel. Il y a toujours un plus gros poisson ou plus brillant ailleurs. On peut toujours se dire, même si je suis en couple et que tout se passe bien, il peut y avoir quelqu'un qui me correspond mieux. Et même si nous trouvons des tas de choses qui nous rassurent dans le couple, une stabilité émotionnelle, des tas de choses dont nous avons besoin, au bout d'un moment, disparaît l'attrait de la nouveauté. Et nous avons, et donc quand des gens, que nous faisons des rencontres et que des gens ressuscitent quelque chose comme l'aventure, l'attrait de la nouveauté, autre chose, nous pouvons être tentés de larguer les amarres parce que nous savons en plus que rationnellement, il y a toujours moyen de trouver quelqu'un qui me correspondra mieux. Le grand défi que nous avons, c'est comment faire nôtre et accepter cette dimension de marché qui n'a pas que des aspects négatifs. Et ne pas tomber dans la tentation de nous consommer les uns les autres et de ne pas arriver à construire des relations un petit peu, non seulement durables, mais surtout épanouissantes.
Si la révolution féministe allait à son terme, est-ce que le marché en serait déstabilisé? Est-ce que les féministes peuvent faire tomber le marché?
Bonne question.
Mais rapidement. D'abord,
je vais très vite. Il y a plusieurs féminismes, donc c'est pas si simple. Mais les enquêtes montrent que les femmes n'adoptent pas les mêmes comportements que les hommes. Elles sont pas aussi prédatrices. Elles ne consomment pas, par exemple, la sexualité de la même manière. Et donc, je ne suis pas sûr. Je crois que le féminisme fait beaucoup de bien parce que il permet que la société soit régulée par des normes beaucoup plus égalitaires dans lesquelles tout le monde peut se déployer ses compétences et ses chances. On verra où nous emmène le féminisme, peut-être vers le meilleur. Je crois que ça ne va pas ébranler le marché.
Car un monde où tout est négociable est aussi un monde où tout est possible. On terminera avec ces mots de vous, François de Smet, Eros Capital. L'affaire n'est pas conclue, elle va continuer à s'écrire. Philosophie du marché amoureux, votre nouvel essai vient de paraître aux éditions Climat.
Merci.
Un grand merci à toute l'équipe de La Grande Table, à Maya Neskovic et Laura Dutèche-Pérez pour La Grande Table des idées, à Oriane Delacroix, Henri Leblanc et Anne Toscane Vioudès pour La Grande Table Culture. Et surtout, aujourd'hui, un énorme merci à Jeanne Copé et à Jordan Joseph qui nous ont accompagnés depuis cette rentrée, depuis 5 mois. C'était nos 2 stagiaires. Voilà, on va devoir en être dépossédés. On les aimait tellement. Merci beaucoup d'avoir passé ces moments avec nous et de nous avoir aidés à préparer toutes ces belles grandes tables. À la réalisation aujourd'hui, c'était Marie Placet avec Clément Daté. Très bel après-midi à tous sur France Culture.